Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous étudions actuellement un petit livre du Nouveau Testament. Il s'agit de la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Pendant cette première série, consacrée aux 11 premiers versets du chapitre 1, nous abordons un thème important, celui de la croissance spirituelle.
Didier est de retour parmi nous pour nous aider à comprendre cette lettre et pour nous dire pourquoi, aujourd'hui encore, il est important de saisir son message. Didier, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Les graines que nous semons dans le sol germent et poussent pour devenir des plantes et produire du fruit. Un bébé qui naît va grandir et se développer pour devenir un adulte mature et productif. Voyez-vous, la création existe car elle obéit à un cycle, celui de la croissance. Il en est de même sur le plan spirituel. Celui qui met sa foi en Jésus peut naître de nouveau. Il commence sa vie spirituelle tel un bébé. Il est appelé à devenir un adulte mature dont la foi est ancrée en Christ. Pour y parvenir, il faut passer par une croissance spirituelle. Dans sa deuxième lettre, l'apôtre Pierre aborde ce thème. Comment croître sur le plan spirituel? À quoi ressemble un chrétien mature? Pierre donne quelques éléments de réponse à ces questions. Écoutons, avant d'en discuter, les propos de Pierre au verset 3 à 8 du premier chapitre de sa deuxième lettre.
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Merci. Nous abordons donc le thème de la croissance spirituelle. Et lors de nos deux dernières émissions, nous avons réfléchi à tout ce que Dieu nous donne pour nous aider à faire des progrès dans ce domaine.
Oui, nous avons vu que le Dieu trinitaire se donne à nous. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit nous invitent à vivre avec eux une relation personnelle et intime. Cette amitié avec Dieu qui s'offre à nous va nous aider à croître spirituellement. De plus, Dieu nous a donné sa parole, la Bible. Pour croître spirituellement, nous devons écouter cette parole, mais aussi y répondre avec foi et obéissance.
Merci Yann pour ce beau résumé des deux dernières émissions.
Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
En me penchant sur le verset 4 du premier chapitre de cette deuxième lettre de Pierre, je voudrais parler de l'objectif ou du but de notre croissance spirituelle.
Écoutons donc à nouveau ce verset.
Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine.
Merci. Je constate que cette phrase est composée de deux éléments. Elle inclut en effet deux exhortations. Car croître spirituellement devient possible en fuyant la corruption qui existe dans le monde et en devenant participant de la nature divine.
C'est vrai, Yann. Mais en fait, ces exhortations constituent un seul mouvement. Car en se détournant du péché, c'est-à-dire du mal, on s'attache à Christ et on a soif de sainteté. On appelle ce processus la sanctification. La croissance spirituelle consiste à faire des progrès dans la sanctification. Imaginez que vous avez pris votre moto pour vous rendre dans un village très lointain. Vous poursuivez tranquillement votre route, mais tout d'un coup, un passant vous arrête en faisant de grands gestes animés. Il vous annonce que la route que vous poursuivez va vous conduire dans une forêt connue pour être infestée de bandits. Alors, si vous continuez dans cette direction-là, vous risqueriez fort bien de tomber entre leurs mains. Mais ce passant vous indique aussi un autre chemin que vous pourriez emprunter, un chemin plus sûr, où vous serez en sécurité. Que feriez-vous ? Il serait sage de faire demi-tour et de trouver ce chemin qui va assurer votre bien-être. Voilà une illustration de la sanctification. Nous devons apprendre à identifier et à éviter les dangers du péché pour, à la place, poursuivre la sainteté et le bien. Souvent, cette décision implique un demi-tour, car nous réalisons que nous avons fait les mauvais choix, pris les mauvaises décisions dans la vie, et il faut se repentir, il faut changer de direction. Nous allons à présent examiner les deux éléments du verset lu.
Et le premier nous exhorte à fuir la corruption qui existe dans le monde à cause de la convoitise.
Oui, notons bien le mot « fuir ». C'est un mot assez fort et sans ambiguïté. Devant certains dangers, la meilleure démarche à adopter est la fuite. Si vous apprenez par exemple que des milices rebelles s'approchent de votre village, il est sage de partir au plus vite et de vous cacher dans la brousse. Si vous apprenez que la maison avoisinante a pris feu, il est sage également de prendre la fuite, afin que les flammes ne vous rattrapent pas. Devant le danger, il est normal de fuir.
Nous devons donc comprendre que la corruption contenue dans le monde représente un grand danger.
Absolument.
Et qu'entendez-vous par la corruption qui existe dans le monde ?
Il s'agit bien plus que la malhonnêteté ou les injustices commises par les politiciens, les fonctionnaires ou les hommes et femmes d'affaires. Il s'agit ici, en effet, du mal et du péché dans toutes leurs expressions. La corruption représente toute influence dans notre monde ou notre culture qui nous pousse à désobéir à Dieu et à commettre le mal. Il est intéressant de constater que Pierre cite la convoitise. Je voudrais d'ailleurs insister sur le fait que la corruption et le mal ne se trouvent pas seulement dans le monde, ils résident aussi dans nos cœurs. La convoitise représente tout désir qui naît dans nos cœurs, toute ambition qui tend vers le mal plutôt que vers le bien. Il est possible de désirer la place d'un autre, la réputation d'un autre, les privilèges d'un autre, la femme d'un autre, les biens d'un autre. Et ces mauvais désirs, autrement dit ces convoitises, mijotent dans nos cœurs et nous poussent à commettre le péché. En résumé, le mal est dans le monde. Le mal habite aussi nos cœurs. Le mal corrompt tout.
Et ce mal est si dangereux que nous devons le fuir.
Oui, et je me demande si parfois un manque de croissance spirituelle n'est pas dû à une absence de prise de conscience sur la gravité du péché et des dangers qui y sont liés. De nos jours, la tendance est de croire que le péché, du moins certains, ne sont pas vraiment graves. Pensez aux petits enfants qui sont fascinés par le feu. Ils aiment s'en approcher de plus en plus près, au risque de se brûler gravement. Alors il faut leur apprendre à éviter le feu. C'est dangereux. Il faut leur apprendre à fuir le danger. De la même manière, il est dangereux de jouer avec le péché. Il faut le fuir, s'en détourner complètement.
Et pourquoi le péché est-il si dangereux ?
D'abord, les péchés qui ne semblent pas trop graves peuvent être responsables de circonstances graves, entraînant le malheur en nous ou autour de nous. Car tout péché est grave, qu'il semble sans importance ou gravissime. Voici quelques illustrations pour expliquer ce que je veux dire. D'abord, si on garde la haine envers quelqu'un dans son cœur, cette haine pourrait lui être exprimée un jour, en paroles ou en gestes violents, avec toutes les conséquences douloureuses que cela engendrera. De même, si on garde dans son cœur des désirs pour la femme d'un autre, peut-être qu'un jour, lorsque l'occasion se présentera, on commettra l'adultère, avec toutes les conséquences douloureuses que cet acte déclenchera. Les convoitises qui pourraient ne sembler pas trop graves peuvent prendre de l'importance au point d'être responsables d'actes méchants, entraînant des conséquences tragiques et malheureuses. La pratique du péché entraîne la souffrance dans son sillage, la culpabilité et la honte. L'esclavage a de mauvaises habitudes, des relations brisées, des conflits et des tensions, au risque de comparaître en justice ou d'être emprisonné. Pour toutes ces raisons, il est important d'apprendre à lutter contre le péché. Cependant, il existe une autre raison pour laquelle il est important de résister au péché et de fuir son appel. La pratique du péché représente une offense contre Dieu. Elle brise notre relation avec lui et déclenche la justice divine. Celui ou celle qui ne confesse pas ses péchés et ne s'en repent pas est en grand danger. Celui ou celle qui s'obstine à pratiquer le péché et ne s'en détourne pas pour implorer le pardon de Jésus-Christ reste sur le chemin large qui conduit au châtiment divin et éternel. Nous n'aimons pas penser à l'enfer, mais, selon la Bible, cette réalité effrayante est réservée à celles et ceux qui refusent de fuir le péché.
Merci Didier pour cet avertissement. Mais comment fuir la corruption du monde et les convoitises du cœur?
Il est pratiquement impossible de fuir le péché seul, de nos propres forces, car nous sommes esclaves du péché. Toutefois, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour croître spirituellement, et donc, en conséquent, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour fuir la corruption contenue dans le monde et dans nos cœurs. C'est pourquoi j'affirme que pour nous détourner du péché, nous avons surtout besoin de nous tourner vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Sauveur. C'est en nous tournant vers Jésus par la foi que nous recevons le pardon du péché, que nous sommes libérés de la honte et de la culpabilité, que notre destin éternel change. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour nous sauver de nos péchés. De plus, Dieu nous donne aussi sa parole, la Bible. La Bible nous aide à discerner le mal du bien, à comprendre ce qu'il faut fuir et ce à quoi il faut aspirer. La Bible nous enseigne à progresser vers la sanctification, à faire des progrès dans la croissance spirituelle, qui consiste, entre autres, à fuir la corruption contenue dans le monde. Dieu nous a également donné son Esprit Saint. Par son Esprit, Dieu est avec nous et en nous. L'Esprit est présent pour nous fortifier et nous rendre efficaces dans notre lutte contre le péché. L'Esprit nous donne la force de dire non aux diverses tentations qui nous affligent. L'Esprit nous donne la force de fuir le mal. Il oriente nos regards vers Jésus-Christ et produit en nous des fruits de belle qualité. Oui, nous ne sommes pas seuls, car Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour nous aider à résister au péché.
Merci Didier. Nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais nous continuerons nos discussions sur la croissance spirituelle la prochaine fois.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.